Chapitre 9. Monsieur Durand, n'étant ni un sot ni un naïf, savait qu'il avait jeté de l'huile sur le feu et passé de tristes heures à réfléchir aux moyens de prévenir une catastrophe. Il ne mettait point en doute le malheur de la jeune fille si elle épousait Rudal, et quand, essayant d'envisager l'événement d'une autre façon, il se blâmait lui-même de porter un jugement aussi absolu, il constatait que non seulement sa conviction n'était pas ébranlée, mais qu'elle sortait plus forte de ses luttes. Dans le pays, le futur mariage de Brigitte était le sujet de toutes les conversations. On disait hautement que les jeunes gens s'aimaient, mais que M. Desponnets refuserait peut-être de donner sa fille à un homme sans métairie. Alors, disaient les bonnes gens, il ferait bien de le renvoyer, qui touche au feu s'y brûle. Durand n'oubliait pas que M. Desponnets était, comme toujours, profondément endormi. Mais il pressentait que les propos, en s'enracinant, pourraient peu à peu changer de nature et compromettre une réputation qui lui était plus chère que la vie. Au milieu de ses inquiétudes, il reçut un mot de Madame Taillanderie. « Venez, mon cher, j'ai à vous parler. Il se passe, dit-on, de belles choses à Noirpin. Mon cousin a-t-il irrémédiablement perdu la tête ? Est-il vrai qu'il est pour secrétaire un homme jeune, beau, intelligent, et qu'au lieu de voir le danger, il accroît par sa sottise ? Pas un mot de Brigitte depuis 3 mois. Pourquoi aimez-vous cette petite ? Absurde ! Et pourquoi ces jolis yeux candides me poursuivent-ils dans ma métairie ? Nonsens ! Je vous attends. Veuve T. » Durand, que les manières brusques de Madame Taillanderie blessaient sérieusement quand il s'agissait de Brigitte, avait omis, depuis son retour, d'aller la voir. Il ne voulait ni étaler son chagrin, ni compter ses graves soucis, mais l'appel de son ami modifiait ses desseins, et, malgré sa répugnance, il partit à cheval pour les petites Buardières. Madame Taillanderie l'attendait impatiemment. Le cœur de cette vieille femme, fantasque et bourrue, était très vivant. Malgré les critiques mordantes qu'elle ne ménageait à personne et qui la faisaient souvent passer pour méchante, elle pensait souvent à Brigitte en s'affligeant de ne pouvoir lui tendre la main. Elle reçut Séverin assise, avec son tricot, sur la chaise à marchepied dont la hauteur lui permettait de surveiller son personnel par la fenêtre ouverte. « Eh bien !» lui cria-t-elle en l'apercevant. À regret, il répondit « Vous êtes bien informé, tout va mal à Noirpin. » « Et mon cousin est de plus en plus enfoui dans ses recherches ?»« Oui. » Elle descendit de son siège élevé pour marcher brusquement dans la salle en lançant d'énergiques interjections peu flatteuses pour M. Desponnets. Après quoi, elle vint s'asseoir en face de Séverin qui attendait avec patience que le calme fût revenu. « Je sais que vous souffrez, dit-elle en l'examinant attentivement, et qu'il est cruel de vous questionner. Mais enfin, vous avez vu ce secrétaire ? Qui est-ce ? Que pensez-vous de lui ?»« Beaucoup de mal, sans rien préciser. C'est un homme intelligent, habile et brillant. Je dis brillant, étant admis qu'il n'y a pas, pour Mademoiselle Desponnets, de comparaison possible. » Elle peut comparer avec vous, je suppose. » « La comparaison ne m'est pas favorable. À ses yeux, je suis le connu, c'est-à-dire le prosaïsme. Lui, le rêve. »« Le rêve, idiote !»« Ce sont les circonstances qu'il faut critiquer. » »« Allons donc, si elle avait du bon sens. Mais inutile de discuter avec vous, puisque vous l'aimez. Enfin, pardonnez ma question, ce mariage serait, selon vous, une chose très hasardeuse pour le bonheur de Brigitte ?» Un mariage, mais il est impossible, s'écria Séverin. Cet homme est, à mon sens, tellement douteux que je ne puis m'arrêter à la possibilité d'une semblable union. Et Brigitte ? Elle l'aime ou croit l'aimer. Il est fin, il a saisi promptement sa nature. Il a su l'envelopper, l'intéresser immédiatement, avec des attitudes et des phrases de héros malheureux. Et ce n'est pas ce qui me met le moins en garde contre lui, car, vivant auprès d'elle, point n'était besoin de tant d'habileté pour se faire remarquer. Quel est son dessein ? Que pense-t-il ? Pourquoi, encore une fois, s'entoure-t-il de précautions quand il est trop facile d'être aimé d'une jeune fille que l'on voit dans une intimité et une liberté quotidienne? Il semble vouloir resserrer autour d'elle les mailles d'un filet. Séverin se parlait à lui-même, résumant par ses mots l'inquiétude qui le dévorait. Mais pourquoi en chercher si long? Ce qu'il veut, c'est l'épouser, parbleu, répliqua Madame Taillandry. Pour un pauvre diable comme lui, un pareil mariage est le port et la fortune. Durand, absorbé, ne répondit rien, et Madame Taillandry, s'impatientant, dit : À quoi diable pensez-vous, mon cher? Lui supposez-vous des projets malhonnêtes? À quoi lui servirait-il? D'ailleurs, il n'y a rien à craindre avec Brigitte. Si vous voulez le fond de ma pensée, je crois à tout du côté de Rudal. Quant à elle, chère Brigitte, elle peut donner dans un guet-apens. Bien que profondément touchée par l'émotion qui perçait dans le ton de Durand, Madame Taillandry haussa les épaules. La maladie de Brigitte est contagieuse et vous voilà, vous aussi, devenue romanesque. Un guet-apens? Est-ce de notre temps? Allons, tâchez de retrouver votre bon sens habituel. Pour moi, bien que je me fusse promis de ne pas remettre les pieds à Noirpin, je partirai demain et causerai avec cet imbécile de père. Mais il n'est pas aisé d'ouvrir les yeux de ceux qui se les bandent énergiquement. J'arriverai pour déjeuner afin d'observer le bel oiseau en question. Aussitôt, la métairie fut mise en émoi par l'excursion du lendemain. Les chevaux que l'on préparait pour un labour furent rentrés à l'écurie avec ordre de doubler leur ration d'avoine. La calèche fut immédiatement sortie de la remise pour être lavée à grande eau et Madame Taillandry s'en alla donner les instructions les plus minutieuses sur l'emploi des heures pendant son absence. Brigitte fut très désagréablement surprise par l'arrivée de sa cousine car elle redoutait toute émission indiscrète dans une situation remplie, pour elle, de joies répétées et profondes. Mais la visiteuse était de si belle humeur que Brigitte se rassura. La conversation de Madame Taillandry, intéressante et pratique, plut à Rudal et il répondit avec une intelligence qui captiva son interlocutrice. Au lieu de lui déplaire comme elle s'y attendait, il la conquit très vite et, en les regardant tous les deux, jeunes, épris l'un de l'autre et charmants, elle songeait « Après tout, pourquoi pas? Le pauvre Durand me paraît avoir les lunettes d'un amoureux éconduit. Il est fort bien, ce jeune homme, et la pauvreté n'est pas une tare. » Soit qu'il devinât cette bonne impression, soit pour autre chose, Rudal ne laissa échapper aucune idée qui pût la blesser. Il fut simple, aimable et correct, suivant son habitude, lorsque certains de ses sentiments étaient au calme. Quels que fussent ses soucis et ses projets secrets, la certitude d'être aimé de Brigitte, la douceur de leur rapport depuis l'aveu réciproque, agissaient sur son âme irritable, et il s'attachait passionnément à l'idée d'avoir un jour à lui, et pour toujours, la douceur bienfaisante de la jeune fille. Brigitte le fit valoir en maintenant la conversation sur des sujets qui ne pouvaient dévier. Aussi, quand Madame Taillandry prit le bras de M. Déponet en disant « J'ai à causer avec vous, conduisez-moi dans votre cabinet », elle n'était pas éloignée de l'encourager dans un projet de mariage. Mais le souvenir de Durand et ses inquiétudes la ramenant à la réalité, elle résolut de rester neutre et de n'influencer personne. « Eh bien, mon cher, dit-elle, vous mariez donc votre fille ? Avec qui pourrais-je la marier ? Nous ne recevons aucun visiteur. »« Ah, vraiment ? Et monsieur Rudal, qu'en faites-vous ? » ?»« Rudal ? Laurent Rudal ?» Et monsieur Déponet se mit à rire. « Je ne connais pas 36 Rudal, répondit-elle en le regardant de travers, et il est évident que je parle de votre secrétaire. » « Mais, ma pauvre amie, mon secrétaire pense à travailler et non à se marier. »« Délicieux! Quel vieux fou vous êtes !»« Quoi? Avez-vous entendu dire ?»« Oui, j'ai entendu dire, mais point n'était besoin de rumeurs publiques pour avoir sa propre idée. »« Vraiment, c'est insensé. Il est trop intelligent pour supposer un seul instant que je lui donnerai ma fille. »« Et pourquoi ne le supposerait-il pas ? N'encouragez-vous pas les événements? Établit-on dans l'intimité de sa fille un beau garçon sans entrevoir le résultat certain ? Et n'est-il pas permis d'avoir chez soi un travailleur sans penser à ce malheureux amour ? S'écria M. Desponnet d'un ton désespéré. Alors on le prend bâti autrement et encore. Qu'allez-vous faire à présent ? Mais je n'ai rien à faire. Que voulez-vous que je fasse ? Je ne marierai pas Brigitte à un homme sans position et sans fortune. Il a des illusions, je crois, sur les promesses de son ministre. Un mariage aussi piètre n'est pas possible, vous ne pouvez en être partisan. Alors, mon cher, faites déguerpir M. Rudal au plus vite. Et mon livre ? Répondit M. Desponnet avec effroi. Est-ce au moment de toucher au port que je puis renvoyer un auxiliaire précieux ? Et votre fille, n'est-elle pas plus précieuse qu'un méchant livre ? Ma fille, elle ne court aucun danger, répliqua-t-il, profondément froissé d'entendre traiter son travail avec un tel dédain. Encore une fois, si vous ne voulez pas du mariage, séparez-les. Non, je n'en veux pas. Je n'avais jamais pensé à cette éventualité, mais il ne faut pas de longues réflexions pour refuser de prêter la main à une absurdité. J'espère encore, du reste, que Brigitte consentira un jour à épouser Duras. Votre fille est archi-romanesque, mon cher. Il n'y a que vous à ne pas le savoir. Ce secrétaire eût été laid comme un singe qu'il eût pu, dans les circonstances présentes, monter la tête de Brigitte. Or, nous avons affaire à un beau garçon ténébreux qui n'avait qu'à se présenter pour mettre le feu à la poudre. Quelle sottise ! Romanesque, Brigitte ? Romanesque, oui, mais sans l'être plus que moi, elle pourrait s'éprendre d'un homme, du seul homme qu'elle voit sans cesse. Eh bien, répondit M. Desponnet, je parlerai à M. Rudal et lui dirai de ne rien espérer. En tout cas, éloignez Brigitte. Si vous voulez me la confier pendant quelque temps, ma métairie lui est ouverte. La garderiez-vous bien plusieurs semaines ? Plusieurs mois, si vous voulez. M. Desponnet, entrevoyant, par cette réponse, la possibilité de concilier ses intérêts et ceux de sa fille, remercia avec effusion Mme Taillanderie, mais pensa qu'il serait difficile de décider Brigitte, dont il connaissait les antipathies, à se réfugier aux petites buardières. « Si vous parliez à ma fille, vous sauriez ainsi. »« Non, non, mon intervention directe ne vaudrait rien. D'ailleurs, mon idée est parfaitement arrêtée. » M. Desponnet, déplorant l'entêtement étrange de Mme Taillanderie sur le caractère et les sentiments de Brigitte, se garda d'insister et la vit partir avec satisfaction. Mais, avant de quitter Noirpin, elle passa quelques instants dans le salon, lançant des coups de boutoir à droite et à gauche, pendant que Rudal, dont l'humeur pacifique avait subitement changé, avançait ses théories préférées. Elle le regarda de haut en bas d'un air moqueur et le salua sur cette boutade. « Votre esprit ne sera plus nourri d'idées fausses, mon cher monsieur, le jour où vous posséderez une métairie au grand soleil. Bonsoir. » Après avoir ainsi touché la blessure causée par le bas, elle se fit conduire chez Duras, qui accourut et l'introduisit dans un grand salon clair, orné avec un goût sûr. « Empressement flatteur !» dit-elle d'un ton encore furieux au souvenir de sa discussion avec Rudal. « Que savez-vous » demanda-t-il anxieusement. « Mon cousin est plus que jamais un vieux fou. Mais encore, votre impression sur Rudal ?» « À franc parler, mon pauvre ami, elle ne ressemble pas à la vôtre. Je l'ai trouvée fort bien. L'avez-vous dit à M. Desponnet ? Non, je n'ai rien dit. À cause de vous, je n'encouragerai pas ce mariage. Mais il ne me paraît plus impossible. »« Ah !» répondit seulement Duras. « Non, je ne considère pas que l'absence de fortune soit un obstacle insurmontable. » Quant aux idées du jeune homme, elles changeront bout pour bout le jour où il se sentira solidement planté dans la vie, avec une maison, des champs, des bois à lui et un bon métayer par-dessus le marché. « En vérité, » dit Séverin avec ironie. « Oui, mon cher, telle est ma manière de voir, » reprit-elle en s'animant et s'irritant un peu, comme il lui arrivait sans cesse si elle se heurtait à une contradiction. mais je m'empresse d'ajouter que M. Desponnets est d'un avis différent. Se distrait, pratique à ses heures, rejette absolument l'idée de marier sa fille à un homme sans position et sans patrimoine. Au fond, il en tient pour vous, il espère que le temps arrangera vos affaires. M. Desponnets est un enfant, enfant obstiné, inconscient du mal qu'il a fait et fera encore. Personne ne connaît moins sa fille. Derrière sa douceur séduisante, il y a, à l'état latent, de l'énergie et de l'exaspération. Le temps arrangé mes affaires et l'attachement de Brigitte pour Udal, qu'en fait-il ? Il n'y croit pas. Naturellement, c'est un fait. Il compte parler au jeune homme et me confier Brigitte pendant quelques semaines, car il n'entend pas se séparer de son secrétaire avant la fin de son insupportable travail. Quant à moi, je façonnerai et distrairai l'esprit de ma jeune cousine. Durand l'écoutait silencieusement, d'un air ironique et froid. Il la reconduisit à sa voiture, sans parler de ses propres idées, et passa plusieurs heures à les méditer. Il donna ensuite des ordres pour qu'on fît sa malle, et le matin suivant, partit par le premier train, après avoir écrit à Madame Taillanderie « On peut toujours se tromper, et votre impression sur M. Rudal a ébranlé ma conviction. Je pars pour Paris, peut-être de là pour l'Italie, afin de rapporter tous les renseignements désirables. Des lettres reçues dernièrement ne m'ont pas satisfait. Si les renseignements définitifs sont bons, qu'elle soit heureuse avec lui. S'ils sont ce que je redoute, c'est-à-dire de nature à compromettre plus tard son bonheur, j'interviendrai. En attendant, soignez-la bien. La savoir près de vous est un repos d'esprit pour moi. J'ai ainsi le temps d'agir. Mes hommages respectueux, Durand. »